Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? C'est Clotilde Seille, une nouvelle fois à la barre de l'émission Des livres plein les oreilles sur les ondes de Canal M avec aujourd'hui comme invité, on retrouve avec toujours un énorme plaisir Huguette Roussel. En seconde partie d'émission, c'est le bénévole Daniel Lachance qui viendra nous partager une de ses lectures et elle est déjà en studio et c'est la deuxième fois. Ça va devenir vite fait une chouchoute de l'émission. Michel Ouimette, bonjour Michel.
Bonjour.
Très gentil vraiment d'être revenu pour nous présenter l'heure bleue. Mauve. Elle n'est pas bleue, elle est mauve, cette couleur. Et là, elle va m'en vouloir, Michel.
Ah,
mais non, c'est vrai. Non, parce que vraiment, leur mauve n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec leur mauve. Tout de suite, je dois avoir Huguette Roussel, hein, qui doit être au bout du fil. Bonjour, Huguette.
Bonjour, Clotilde. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais super bien.
Bien. Alors, aujourd'hui, vous nous arrivez avec quel titre? Et je vous laisse le soin de nous présenter le titre et son auteur.
Alors, le titre, c'est « Le cantique des assassins ». C'est pas comme l'heure bleue, par contre. Hein, c'est
non, de toute façon, c'est leur mauve, en plus.
Oh, oh,
alors, oubliez l'heure bleue. Alors, est-ce que c'est cantique des... ou c'est pas cantique de l'assassin?
Moi, j'ai trouvé cantique des assassins.
Ah bon?
Enfin, ça peut être deux ou du.
Eh bien, dites donc, ça part bien de deux en deux.
Il
y a des émissions catastrophes comme ça qui partent comme ça, mais ce ne sont pas forcément les plus mauvaises.
J'espère que non.
Mais non.
Ben, c'est un auteur, Claude Prévost. De prime abord, je pensais que c'était un Québécois, mais pas du tout. J'étais dans le champ. Il est français, il a écrit pour des romans adultes, des romans pour la jeunesse aussi, et puis pour il était très très prolifique, ce jeune homme.
Oui.
Alors ça se passe dans les années 1920.
Oui.
Et ça comporte, il y a un détective, un enquêteur de police qui va se faire piéger par un criminel, évidemment. Ça va commencer par un meurtre d'un prêtre. Et sur les initiales, sur lui, on trouve des initiales DS. BS.
Oui. BS?
Oui, BS, pas comme sur le BS aujourd'hui, là, mais BS.
Ben, en tout cas.
Et on pense que. On présume que ça a un lien familial avec l'inspecteur. Donc, on suppose que c'est dans sa famille, ou c'est lui qui tue, ou bref, on ne sait pas trop. Donc, on le met sur l'enquête.
Oui.
Et ce fameux policier-là, sa mère s'appelle Blanche.
Oui.
Et le prêtre qu'elle connaissait quand elle était jeune s'appelle Saunière, de son nom de famille.
Oui, oui.
Donc, lui, il fait enquête là-dessus, il ne comprend pas qu'est-ce que sa mère fait dans ça. Là, il faut voir sa mère en institution parce que sa mère est devenue, elle est malade, elle sait pas qu'elle a plus de qualité de vie, mais elle est gardée en institution quand même. Mais lui va tout faire pour trouver, désamorcer cette
situation-là, c'est ça?
Parce qu'il veut comprendre ce qui se passe.
Bien sûr.
Et il se promène à Montmartre, il prend le train, il déteste prendre le train, il enquête, il fouille, jusqu'à ce qu'il trouve... le criminel.
OK.
Donc, l'histoire se passe dans ça. Il va voir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans ce livre-là. Il trouve. Je ne vous dis pas c'est qui.
Non, évidemment.
Il trouve, mais c'est ça. C'est fait de sorte à ce que... C'est bien assorti.
Oui. Je lisais, c'est un suspense autour de la religion, hein, Huguette.
Oui, parce que c'est tiré d'un fait vécu.
Ah oui?
Oui, cette abbé Saunière-là a existé.
OK.
Okay. Donc, c'est pour ça que ça...
C'était genre un petit curé de campagne qui est devenu finalement bien riche après. Hein?
Oui, parce qu'il cherchait un trésor. C'est ça. Il y avait... Le trésor est très convoité, mm-hmm. évidemment. Mm-hmm. Puis là, dans cette époque-là, ben lui, ce curé-là avait caché le trésor.
OK.
Puis il a impliqué un autre prêtre dans cette cachette-là, mm-hmm. qui fait que le prêtre connaissait le policier.
Oui, je comprends.
Donc, c'est un paquet de circonstances qui fait que le policier est pris dans ça pour faire l'enquête et pour résoudre le crime.
Huguette, je lisais dans une critique que pour les amoureux qui avaient adoré le genre Da Vinci Code et compagnie, ils allaient se régaler avec celui-ci. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ben, je suis... Da Vinci Code est encore plus tortilleux que ça, je trouvais.
Plus tordu?
plus tordu, oui.
D'accord. Bon, alors écoutez, Huguette, on va corriger tout de suite. Alors, c'est bien Cantique de l'assassin. Et puis, votre Claude Prévost s'appelle Guillaume, figurez-vous. Alors, c'est un festival. C'est un feu d'artifice. mais c'est pas grave. Moi, j'adore ça quand c'est comme ça. De toute façon, nous ne sommes pas des ordinateurs. Et puis, l'erreur est humaine. Et puis, ça fait partie de la vie. Et puis, c'est ça. Huguette, on va donc rappeler que c'est de Guillaume Prévost, le Cantique de l'assassin. Et que ça se trouve, évidemment, en audio adapté. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé.
Ben, ça fait plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Michel Ouimet, évidemment, la chanson Les Vieux de Jacques Brel, c'est le lien évident.
Tout avec, à fait, de circonstances. Hein,
c'est vraiment de circonstances. Merci vraiment encore d'avoir accepté de revenir nous voir à cette émission-là. Lorsque j'ai vu ce titre, L'heure mauve, et que j'ai vu qu'il s'agissait de personnes âgées dans une institution, je me suis tout de suite dit L'heure mauve, pourquoi ? Et moi, je pensais aux cheveux des gens âgés, quand ils ont encore leurs cheveux, et que leurs cheveux blancs, à force d'être lavés au shampoing bleu, devenaient un petit peu mauves, mais pas du tout. Je me réfère à la page 330 de votre livre, Michel Ouimet. C'est l'heure mauve quand le jour se bat contre la nuit et que les ombres s'allongent. Et je me suis dit, même là, il y a une bagarre et une guerre entre le jour et la nuit.
Absolument. Et pour moi, le mauve a toujours été la couleur de l'angoisse. Quand ma fille était petite, souvent les enfants sont agités vers 5-6 heures le soir. Ouais. L'hiver, il fait noir. On est plus agité, plus fatigué de la journée. Et je disais à ma fille, c'est l'heure mauve, ma chouette. Alors, et moi, le mauve, c'est vraiment l'heure de l'angoisse. Et dans la résidence pour personnes âgées, c'est l'heure où il n'y a pas de bingo. Le bingo est terminé. Toutes les activités sont terminées. Et on attend la salle à manger. Donc, c'est une heure creuse où on est face à sa vieillesse, à la mort et au vide. Donc, c'est une heure angoissante et c'est pour ça que ça s'intitule l'heure mauve.
Et c'est un livre un peu angoissant parce qu'évidemment, ça nous ramène à notre propre futur. Vieillesse, moi je considère quand même qu'à 60 ans j'ai encore quelques belles années devant moi, mais ce que je veux dire c'est qu'on a tous, quand on arrive à ce palier-là, parce que quand on est plus jeune, on n'y pense pas, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mm-hmm. Alors, et c'est un... Écoutez, je sais... En fait, si je sais par quel bout je vais commencer. Vous avez été, Michel Ouimet, grande reporter, hein, pendant des années et des années. Et il y a ce personnage de Jacqueline, elle-même, qui est une ancienne aussi journaliste, grand reporter également, et qui finalement, elle est comme les copines, hein, elle se fait vieille, et donc elle rentre dans cette institution-là. Et je me disais, à la lecture de votre livre, c'est vraiment un livre sur la guerre, c'est-à-dire au sens large du terme.
Tout à fait.
Et en moi, je me suis fait la remarque, voyez-vous, Michel Ouimet, j'ai écrit à la fin du livre, parce que souvent je prends des notes, comment peut-on imaginer que l'humanité ne puisse se déchirer quand même les humains se font la guerre dans une simple maison de retraite?
Absolument. Mais c'est que les humains restent humains. Et c'est pour ça que je cite, et en particulier les vieux, à qui on attribue toutes sortes de qualités qui, à mon avis, n'existent pas. C'est la sérénité, la sagesse. Oui, les vieux sont plus sages, mais ils ne sont pas résignés. On ne se résigne pas à vieillir. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Et Simone de Beauvoir, que je cite au début du livre, dit... les vieux, la jalousie, la mesquinerie, les luttes et tout ça, même la sexualité, c'est indécent chez les vieux. On ne veut pas voir ça chez les vieux. On attend d'eux que sérénité et sagesse. Et ce livre-là, c'est des vieux qui, dans leur tête, ont souvent soit 35 ans, soit 40 ans. Évidemment, qui ont l'angoisse non seulement d'être vieux et que leur corps les trahit, leur esprit aussi. Ouais. Mais aussi, c'est devant la mort. Là, la mort est beaucoup plus proche que quand on a 40 et 50 ans. Mais en même temps, j'ai voulu qu'il y ait de l'humour et des rebondissements, et que ce soit un roman où il y a beaucoup de tendresse. Mm-hmm. Mais je crois que ça reste quand même... C'est un regard sombre sur la vieillesse et sur la mort.
Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, Michel Ouimet, c'est que dans leur mauve, aussi, il y a beaucoup de retours en arrière sur chacun des personnages. Donc, on les voit... j'allais dire dans leur flamboyance.
Absolument.
Hein? Mais on leur voit aussi dans... On les voit dans leur désillusion. Et on en voit même qui, dans la vieillesse, retrouvent quelques illusions qu'ils avaient perdues alors qu'ils étaient plus jeunes, comme l'amour, parce que l'amour fait partie de ce livre-là. Il y a des belles rencontres.
Je trouvais ça important de retourner dans le passé de mes personnages parce que je ne voulais pas qu'ils ne soient que des vieux.
Ouais.
Et je voulais donc qu'on les suive dans chaque étape de leur vie. Quand ils ont 20 ans, ils ont la vie devant eux. Des gens qui ont eu des vies extrêmement remplies parce que les vieux, c'est pas quelqu'un assis dans une chaise qui se berce à longueur de journée. C'est quelqu'un qui a eu une vie remplie. Je voulais aussi que quand on revenait au personnage, on le voit autrement. Il n'est pas que dans sa résidence pour personnes âgées en train de chamailler ou de se battre pour avoir une place dans la salle à manger. Il a eu toute une vie. Il a eu des enfants, des illusions, des désillusions. La vie a parfois été dure avec ces personnages-là, comme Jacqueline, ma journaliste qui a été mise à la porte et qui carbure à l'amertume. Mais et c'est ça, je voulais qu'on s'attache à ces personnages parce qu'on les voit à travers leur vie.
Mais oui, et c'est vraiment réussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié. J'aurais été frustrée de ne pas comprendre ce qu'il y avait derrière les rides de ces personnages-là, et même derrière leurs aigreurs. Parce qu'elle, on comprend pourquoi est-ce qu'elle est aigrie comme ça. Il y a de quoi être aigrie comme
c'est
ça.
Mais c'était aussi un regard sur le journalisme et sur l'ingratitude, parfois, des milieux de travail.
Bien sûr.
Bon, alors, elle n'a pas eu d'enfant, elle a consacré sa vie à sa carrière, et elle se retrouve seule, et cette solitude-là l'effraie.
Oui. Alors là, où je me suis un petit peu inquiétée, en page 16, alors on parle de cette Jacqueline, évidemment, nous sommes dans la fiction. Elle a tout donné à cette, entre guillemets, à cette hostie de journal-là. Tu dis, oh, comment ils ont pris ça?
Non, pas du tout, parce que c'est tellement pas moi.
C'est ça.
Bon. Mais je trouvais ça important de montrer que ça aurait pu être n'importe quel
milieu. Oui, c'est ça.
Mais oui, il y a certains points de ressemblance entre Jacqueline et moi parce qu'elle a voyagé partout dans le monde, elle a fait des reportages. Mais le personnage est très différent de moi, à part le fait que moi aussi, je sacre beaucoup. Mais je n'ai pas son caractère de chien, du moins, je l'espère. Et je n'ai pas non plus été congédiée par la presse, mais j'ai des amis qui ont travaillé ailleurs, pas nécessairement dans les médias, dont deux amies très proches qui ont été congédiées.
Ouais.
Et ce qu'elles ont vécu comme trahison profonde, comme le fait qu'elles perdaient une partie de leur identité, ça m'a beaucoup frappée. J'ai donné ça à mon personnage Jacqueline et je l'ai mise dans une salle de rédaction puisque c'est ce que je connais.
Exactement, exactement. Alors, on en parlait, il y a dans ce livre quand même effectivement beaucoup d'aigreur, beaucoup d'amertume, et ce sont des amertumes qui font mal. Ce sont des mots, parfois, là, je vous le dis, mais ils sont importants, mais ils font mal. Par exemple, en page 37, ici, Jacqueline se souvient de son premier repas au Bel Âge. Madame Rossi, donc, qui est une autre résidente, qui lui avait dit « Vous êtes venue ici pour mourir ?» Jacqueline était restée sans voix, et nous aussi, lecteurs. Parce qu'on imagine tellement cette salle à manger, aussi belle soit-elle, parce qu'il faut dire qu'on est quand même dans une institution relativement luxueuse, et les gens qui sont là payent très cher. Mais quand tu reçois ça, alors vous aussi, vous êtes venu ici pour mourir, ça devait même être dur à écrire, non? Comment vous êtes projeté, ou alors vous aviez une situation autour de vous, vous avez eu l'occasion peut-être dans vos démarches, dans vos reportages, de pouvoir aller voir de plus près comment ça se passe?
Il y a eu les reportages, mais il y a eu aussi, j'ai vécu pendant 3 semaines dans 2 résidences pour personnes âgées. Alors, la journaliste n'est jamais loin, il y a toujours cette démarche.
C'est ça,
parce que je voulais que ma toile de fond soit vraie. Soit juste. Parce que dans un roman, c'est important que ce soit juste si on veut y croire.
Wow.
Et il y a des choses que j'aurais jamais pu inventer, comme j'ai passé une nuit aussi avec une jeune préposée ou bénéficiaire.
Oui.
Et le matin, elle dit « Bonjour Madame Moisan, comment allez-vous ce matin? Ça va mal? Où sont mes dents? » J'aurais jamais été capable d'inventer un truc pareil. Où sont mes dents?
Où sont mes dents?
Et là, j'ai vu aussi la dynamique à l'intérieur même de la résidence pour personnes âgées, qui est une résidence, pour gens qui ont quand même les moyens. Je ne voulais pas parler des CHSLD qui a ses propres problématiques. Je ne voulais pas rentrer dans cet univers-là. Et il y a aussi mes parents, mon père et ma mère, qui ont passé peut-être 1 an et demi, 2 ans dans une résidence pour personnes âgées. Alors, quand je suis arrivée dans cette résidence-là, et que j'ai vu, parce qu'il y a des tables communes, mais les gens ne choisissent pas leur table, c'est vrai, c'est dans mon roman, mais c'est dans la vraie vie aussi, et que j'ai vu le voisin de mon père couper son apron avec son couteau et sa fourchette, je me suis dit, bon, je pense qu'il y a un roman à faire ici.
Ouais,
mais j'ai voulu quand même vivre, passer une nuit, faire une sortie, jouer aux cartes, aller à la messe, jouer au bingo, pour justement que les détails, comme vous êtes venu ici pour mourir, sonnent juste.
Oui, absolument. Et ça sonne très juste. Et il y a Encore une fois, on va revenir à ces guerres intestines, même si on voit Jacqueline, à un moment donné, il y a un très beau chapitre, bah, très beau, assez lourd à Peshawar, tout ça. Oui. Bon, et là, là, il y a les guerres intestines dans l'institution, entre les riches et les pauvres,
oui.
entre les cultivés et les incultes, entre les bien portants et ceux qui vont très mal. Oui. Et les bien portants ne supportent pas la présence des gens qui vont
des satins,
qui exactement
les
exactement
les présents.
C'est pour ça que c'est vraiment confondant, mais il y a de l'humour aussi. Oui. Par exemple, monsieur madame Moisan, par exemple, monsieur Moisan est sourd comme un pôle, pauvre homme, avec l'âge. Et puis hier, alors il y a cette madame Moisan qui a réussi à faire rire Jacqueline, c'est déjà pas mal, et elle lui dit: mon mari est tellement sourd, il faut que je crie pour qu'il m'entende. Et Jacqueline répond: il me semble que c'est pas si pire. Madame Moisan s'est alors tournée vers son mari en lui disant: je suis enceinte. Et là, voilà, évidemment, il réagit pas. Et Madame Moisan dit à Jacqueline: voyez. Donc il y a des moments d'humour, parce que vous qui avez vécu dans une institution comme celle-là pendant un certain temps, justement, vous nous le racontiez. Il y a des moments d'humour comme ça où les gens en sortent des pas pires.
Il y en a moins. Il y en a davantage, je dirais, dans mon roman que dans la vraie vie.
Ah oui, hein.
Mais
ouais.
Ce qui m'a frappé dans les résidences et ce qu'on retrouve dans mon roman, c'est le fonctionnement d'une résidence pour personnes âgées.
Oui.
A le même fonctionnement que dans une école secondaire. Les mêmes catégories qu'à l'école secondaire. Les leaders, ceux qui sont les plus populaires, la majorité silencieuse, qui est la grande majorité, et les rejets. Et comme au secondaire. Alors, c'est les mêmes intrigues, les gens qui essaient d'être acceptés parce que dans la salle à manger, il y a une table où c'est les plus populaires, ils sont six, on les appelle la table des six. Et eux, ils sont bien, ils planifient leur prochain voyage parce que c'est pas que des vieux là, catatoniques
qui se versent dans leur... Non.
Alors, ils organisent des croisières, ils vont au restaurant, ils ont une vie très riche, ils mangent, ils prennent 2 heures pour manger puis ils prennent du vin. Elle, Jacqueline, est dans une... elle a hérité d'une table avec des vieux et puis elle était courageuse, elle la déprime complètement et elle aime cette haine-là, elle est jalouse la table des six. Et les six ne veulent pas être mêlés avec les athées. Parce qu'ils disent, demain, je serai peut-être un athée et moi, je ne paye pas un loyer de 5 000 $ par mois pour voir des gens baver.
Voilà,
elle fait la guerre.
Elle fait la guerre.
Et c'est une chose qu'elle connaît.
Voilà, exactement. Et alors là, de là, mais alors attention, la guerre. Et alors, ben, j'allais dire, la pauvre Lucie Robitaille, parce que c'est vrai qu'elle en prend... Oh, je vais
la
le dire.
Propriétaire.
La propriétaire, elle en prend plein la gueule, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire,
parce que
c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et il y a des fois où on dit, effectivement, elle a peut-être commis des erreurs, mais mince, elle aimait son métier quand même.
Je voulais que tous les personnages soient assez complexes,
qui
nous énervent, qu'on n'aime pas, mais qu'en même temps, qu'on aime. Donc,
ben,
Lucie Robitaille, qui est la propriétaire, qui peut être assez dure, on découvre qu'elle a un complexe, elle n'a jamais fini son secondaire, qu'elle est intimidée par le juge qui fait partie de la table des six. Puis on se met à l'aimer malgré nous, parce qu'elle en bave.
Ben elle en bave. Puis on sent tout le poids de ces gens qui rentrent dans son bureau, qui se plaignent pour tout, pour rien. Aussi bien les gens qui travaillent là que ceux qui y vivent. Ah non, c'est... on l'a plaint. Beaucoup d'amertume dans ce livre-là. Et alors... Cette Jacqueline qui a beaucoup agi, qui a beaucoup voyagé, comme vous-même, vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup voyagé, finalement, on s'aperçoit, et elle-même s'aperçoit à la fin du livre, que c'est lorsqu'elle est en mouvement qu'elle est heureuse. Et même lorsqu'elle est dans la négation, dans le négatif, qu'elle est heureuse.
C'est quand elle se bat, qu'elle se sent vivante.
C'est quand elle se bat, c'est ça, exactement, qu'elle se sent vivante. Je voudrais refermer un petit peu la parenthèse de l'écrivaine. Est-ce que ça vous fait peur, Michèle Ouimette, vous qui avez tant voyagé, vous en avez vu des choses dans votre vie, des belles et des laides. Est-ce que l'inaction vous fait peur?
Non, l'inaction ne me fait pas peur, parce que je ne serai jamais inactive. Je pense que de ma vie, je ne me suis jamais ennuyée. En fait, j'aimerais avoir du temps pour m'ennuyer. Par contre, la vieillesse me fait peur.
Ah oui.
Et mourir me terrorise. Et c'est ce qu'on retrouve un peu à travers mon roman. C'est vision assez sombre de la vieillesse et je suis terrorisée par la mort. Peut-être parce que je suis une athée et il n'y a rien. C'est le néant
qui
m'attend. Et ça me fait peur.
Oui. Est-ce que c'est aussi parce que vous l'avez sûrement côtoyé dans des circonstances que nous n'avons pas vécues, nous, pauvres mortels? Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Moi, je pense que vous avez dû voir fatalement, vous, comme tous ceux qui font ce métier-là ou des métiers qui sont sur le terrain. Bon, remarquez comme on pourrait très bien assister à Toronto, mais il me semble, avec ce qui est arrivé assez récemment, ce que je veux dire, c'est que est-ce que notre regard ne change pas lorsqu'il est confronté à ces horreurs-là, finalement?
C'est ce que j'ai perdu des illusions sur... C'est-à-dire que j'ai toujours cru que l'homme était bête parce qu'il ne retenait pas les leçons de l'histoire et du passé. Alors, en allant sur des terrains de guerre, et en plus, j'ai une formation en histoire, ça a confirmé ça. Mais ce qui me fait peur, c'est que ma mère a souffert de l'Alzheimer pendant des années.
Ah.
Et ça me fait peur. Je me dis, bon, moi, j'ai une santé de fer, je vais probablement vivre jusqu'à 110 ans, mais dans quel état mental je vais vivre? Est-ce que je vais avoir de l'Alzheimer? Est-ce que je vais appeler ma fille madame?
Oui, non, non.
Et ça, à ce moment-là, c'est sûr que je ne pourrai plus travailler.
C'est la terreur.
Moi, là, j'ai pris ma retraite, mais je vais faire de la pige et je vais écrire, mais à mon rythme.
Alors, écrire.
Oui.
Est-ce qu'à un moment donné, c'est la journaliste qui va complètement reprendre le dessus? Parce que vous avez sûrement des choses incroyables à nous raconter dans tout ce que vous avez vécu durant votre carrière, Michel Ouimet.
Je vais écrire des romans parce que c'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup, qui me donne un grand espace de liberté. Mais mon prochain livre, ça va être mes reportages, mais l'envers du décor. Je ne vais pas écrire un livre gars, comme un homme peut-être l'écrirait. Là, je sais, j'ai l'air d'avoir plein de préjugés.
C'est intéressant, c'est-à-dire?
Je me suis penchée, la balle a sifflé à mes oreilles. Là, je portais ma veste par balle. Non, tu sais, avec un sous-texte qui dit, écoutez, j'étais dans des milieux de guerre. Puis, non. Je ne veux pas faire ça du tout. Je montrais un peu l'envers du décor, c'est-à-dire à quel point on travaille dans le chaos, à quel point des fois on arrive sur un terrain à la dernière minute, comme quand j'ai fait la chute de Moubarak. Je ne connaissais rien de l'Égypte, à part le Caire, les pyramides, Moubarak. Puis moi, j'arrive, je suis parachutée là, à la dernière minute, dans un état de désorganisation, parce qu'il n'y avait pas d'Internet, Moubarak avait tout coupé. Et je dois écrire sur ce pays-là, dont je connais très mal la complexité. Les somnifères, comment on s'organise, les dangers, le retour, la peur, le stress et le poids que ça a. Parce que ce qu'on voit, c'est toujours une image très belle, léchée, les reportages faits, les textes écrits.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de choses en arrière de tout ça et c'est un peu ça que je veux montrer.
Mais on a bien hâte de vous lire, parce qu'à ce moment-là, moi, je vous réinviterai.
Absolument, ça me fera un grand plaisir.
Si l'émission existe encore, oui, j'aimerais beaucoup ça. Je voudrais vous dire aussi, Michel Ouimet, que dans la seconde partie de cette émission-là, j'ai toujours pour habitude de lire un extrait un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude. Donc, pendant quelques minutes, afin que les gens se rendent bien compte de la teneur de ce livre, qui porte donc, sur les combats des vieux, disons cela comme ça. Et que, comme vous l'avez dit très justement au début de cette entrevue, être vieux, c'est pas toujours être serein, c'est pas toujours être sage, mais qu'on a des circonstances atténuantes.
Absolument.
Moi,
dont la vieillesse.
dont la vieillesse, entre autres, et la perte de mémoire et tout ça.
Voilà.
Michel Ouimet, merci beaucoup. L'heure mauve. Bonne semi-retraite et merci encore d'être revenu nous voir. Salut. Des livres pleins les oreilles, la suite. Voilà, alors Michel Ouimet a quitté le studio maintenant, mais j'ai toujours son livre entre les mains, L'heure mauve, dont je vais vous lire un extrait, comme je le fais d'ailleurs à chaque semaine. J'ai choisi un extrait qui met bien la table. On parlait de cette institution dans laquelle se retrouvent ces personnes âgées qui ne sont pas tendres entre elles, qui sont souvent grognons, qui ne sont pas l'archétype du petit vieux sympathique et souriant que l'on peut connaître. Et d'ailleurs, ça va vous en donner une bonne idée. Alors, il y a le personnage de Maxime, c'est lui qui offre les crèmes glacées une fois par semaine aux personnes qui vivent dans cette institution. « Non, je n'ai pas de pâte à biscuits », dit Maxime au juge qui fait la moue. « Framboise d'abord. » « Ça vous écorcherait la bouche de me dire s'il vous plaît ?» a envie d'ajouter Maxime, mais il se retient. Il se penche sur son chariot et dépose une boule rouge sang sur le cornet du juge. Les vieux du deuxième arrivent dans la cour. La plupart s'appuient sur une marchette ou une canne, alors que d'autres se déplacent en fauteuil roulant. Ils sont malades ou ils n'ont pas toute leur tête. Le groupe des six les regarde en levant les yeux au ciel. Charlotte aide Madame Patenaude à s'installer près de la balançoire où rigole la bande des six. Elle voudrait tellement que les bien portants s'intéressent aux atteints. Depuis quelque temps, elle sent l'animosité des six, mais les atteints ne doivent pas rester entre eux. C'est mauvais pour leur morale, ils ont besoin de la vitalité des bien portants. « Voulez-vous un cornet, Madame Patenaude ?» demande gentiment Charlotte. « Est-ce que je peux avoir un cornet ?» répond Madame Patenaude. Charlotte sourit. Pendant qu'elle prend son temps pour commander le cornet de Madame Patenaude, Françoise décide de faire un effort après tout. Elle est une bonne chrétienne, même si elle entretient une vision comptable avec la religion. Chaque bonne action compte, car Dieu note tout, croit-elle. Une bonne action efface un péché. Lorsque Françoise mourra, Dieu sortira son grand livre des comptes. Il pèsera son âme et il décidera de son sort, l'enfer ou le paradis. « On est bien, même s'il fait chaud, » dit-elle à Madame Patenaude en prenant soin de bien articuler. « J'entends pas, j'ai oublié mon appareil. Quoi ? Il fait chaud ! Oui, c'est vrai qu'on est bien !» Françoise cherche le regard complice de Georges, mais il est absent, enfermé dans sa bulle. La crème glacée fond dans sa main en formant des rigoles écarlates. Charlotte se promène entre les groupes, essuie la crème glacée qui coule sur le menton de Monsieur Blanchette, replace le châle de Madame Couture tout en écoutant des bribes de conversation entre deux résidents. « Le jour où j'aurai 20 ans, les chiens auront plus de dents. »« Vous avez plus de dents ? Quoi ? Vos dents ! Quoi, mes dents ? Vous en avez plus ? « Ben oui, j'ai dit que les chiens auront plus de dents le jour où j'aurai 20 ans. »« Je comprends rien. »« Ça, c'est vrai !» Il est déjà 16 heures, l'activité tire à sa fin, même si Maxime sert encore des cornets. Il flirte gentiment avec les vieilles qui en pincent pour lui. « Charlotte !» crie Madame Patenaude. « Charlotte !» Charlotte accourt, Madame Patenaude vient de faire caca. Elle a taché sa belle robe fleurie, celle avec des fleurs mauves. L'odeur est forte, écœurante. « Pleurez pas, Madame Patenaude, je vais toutes vous arranger ça. » Elle quitte la cour avec Madame Patenaude sous le regard outré du juge. « Je suis plus capable !» tonne le juge. « On n'est quand même pas dans un mouroir !» Les autres l'approuvent. Ils vont parler à Lucie Robitaille tous ensemble, elle ne pourra pas leur résister. Françoise frissonne, enfin un peu d'action. « Pardon !» Elle se sent aussitôt coupable, et si Dieu ajoutait cette pensée peu charitable dans la colonne de ses péchés. Voilà, bienvenue chez les petits vieux de Michel Ouimette. Je vous rappelle le titre du livre, ça s'appelle « L'heure mauve ». C'est pas toujours jojo, mais il y a des moments d'humour, d'amour, et puis bon, et puis c'est bien ficelé, c'est bien écrit, c'est du Michel Ouimette. En 67, tout était beau. Bonjour Daniel Lachance.
Bonjour.
C'est pas par hasard, ça va très bien. C'est pas par hasard hein, si on a choisi de vous présenter un tout petit bout le début de cette chanson-là. En 67, tout était beau. Et tout était beau parce que c'est exactement de ça dont on va parler.
Absolument, absolument. Hein? Le titre du livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est « En 67, tout était beau, chansons et souvenirs ».
De
Pierre Huet, qui a écrit cette chanson.
Voilà, exactement. Alors, c'est une autobiographie, un
livre
de souvenirs?
Oui, on peut dire ça, oui, c'est une autobiographie. Et juste pour ne pas l'oublier, c'est disponible à la SQLA, un livre qui dure 9h25. Je suis habitué de dire en nombre de pages, mais là, je suis allé voir sur le site.
Ah oui, hein? oui.
9h25, qui a été lu ici en 2016.
D'accord, par vous-même?
Non, ce n'est pas moi qui l'ai lu.
Pas vous qui l'avez lu,
je l'ai lu par la suite parce que je le trouve intéressant.
Et puis, dans le cadre de votre émission dont il faut parler.
Je l'ai pris comme référence voilà, aussi pour l'émission ça. Table tournante quand voilà. j'ai fait une émission sur Beaudommage.
Voilà.
Parce que Pierre Huet, il faut le dire, est un membre de Beaudommage.
Ben oui, ben
même
oui.
s'il n'était jamais sur scène avec eux.
Non.
Il est un membre en règle de Beaudommage parce que c'est lui qui écrivait la plupart des paroles des chansons.
Alors, ce bouquin.
Ce bouquin que j'ai trouvé très intéressant, en passant, je peux vous lire le résumé du livre?
Oui, ben oui, si vous voulez, oui.
Du cours classique au premier voyage en autostop en Europe de ses années au sein des aventures du magazine Crow, Pierre Huet se raconte en une série de récits à la fois humoristiques, l'auteur de « Mes blues passe plus dans porte », « Le blues de la métropole », « 23 décembre », etc. Il me manque, je vais être obligé de changer de page. Je me
mais
rends
je
compte
vous
que
en prie.
Le genre de...
mais regardez,
de toute façon, l'écran qui est là, puis il manquait les bouts de phrases. Je reprends.
L'émission était partie comme ça, mon ami.
Ouais,
alors,
hein?
vous inquiétez pas. Il y en a des comme ça.
J'ai,
il y en
j'ai
a
poursuivi oui, oui. dans la même...
C'est,
dans la même
et ça n'est absolument pas grave. Nous sommes des humains.
Du cours classique au premier voyage en autostop en Europe, de ses années avec Beaudommage jusqu'à la folle aventure du magazine Crow, dont il fut rédacteur en chef, Pierre Huet se
ça,
raconte...
Ça, j'avais oublié ça.
Oui, moi aussi. J'ai trouvé ça dans le livre et je trouvais ça très, très intéressant.
Ça, j'avais complètement oublié
aussi.
Ça, mais oui.
Pierre Huet se raconte en une série de récits à la fois humoristiques et émouvants. L'auteur de « Mes blues passe plus dans la porte » et de quelques autres chansons parmi les plus belles du répertoire québécois tisse non seulement son portrait, mais aussi celui de toute une génération. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en débutant, Pierre Huet parle du bonheur d'être né en 1949. Moi, je me disais, c'est quoi le rapport d'être né en... Et là, j'ai compris, effectivement, étant donné qu'il est né en 1949, il a eu 18 ans en 67.
Écoute!
L'année de l'amour, effectivement, le
oui.
Summer of Love, l'année
ben,
de
oui.
l'Expo 67, l'année
ben,
de Jimi Hendrix, de tout ça.
Peace and love et
Et donc, je l'enviais.
Écoute.
En
ben,
partant,
oui.
je l'enviais.
Pourquoi vous êtes né quoi, vous, en 48?
Ouais, je suis un peu plus vieux que lui. Non, c'est pas vrai, je suis plus jeune que lui. J'ai connu quand même l'Expo 67, mais j'étais trop jeune pour l'apprécier, comme lui a apprécié cette époque-là. Et d'ailleurs, ben, il ne parle pas seulement de cette période-là dans son livre, bien entendu. C'est une autobiographie. Il parle de son enfance. Il parle de
sa
période.
Comment, ce qui l'a amené à écrire.
Oui,
voilà.
tout ça. Ben, d'ailleurs, c'est certain qu'il parle beaucoup de l'époque de Beaudommage.
Ben
il
oui.
avait débuté avec La Quenouille bleue, que pas grand monde se souvient.
Non, je
ne
me souviens
Moi-même,
pas de ça
j'ai
du
pas
tout.
Connu.
Ah
mais...
non?
Il faisait partie d'un petit groupe qui était, dans le fond, il faisait un peu des spectacles musicaux, humoristiques, un peu théâtral, tout ça. Et ça a développé sur Beaudommage, éventuellement.
Okay.
Donc, il y a plusieurs chansons du premier album de Beaudommage qui étaient déjà écrites à l'époque de la Quenouille.
OK.
Et voilà. Et donc, j'avais commencé à dire tantôt aussi, Pierre Huet est membre en règle de Beaudommage, même s'il n'a jamais participé au concert comme tel. C'était plutôt l'auteur. Pas le seul, d'ailleurs, parce que Michel Rivard...
Ben oui, on a écrit aussi quelques-unes, oui, c'est sûr.
Mais par contre, lui, en a écrit plusieurs.
OK. Alors, est-ce qu'il y a, quelques anecdotes croustillantes ou sympathiques ou drôles que vous avez envie de nous raconter? Ou...
J'ai envie de vous les laisser, les anecdotes, parce qu'effectivement, il y a des choses
beaucoup.
Que j'ai... Il y en a beaucoup.
Mais qu'est-ce qui vous a marqué, entre
ben,
autres?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout le travail, sa façon d'écrire des chansons.
Ah!
Et bon, j'écoute beaucoup de musique, j'en joue aussi, j'en ai déjà écrit, mais je m'étais jamais arrêté, justement. Lui, il divise ça, il y a trois façons pour lui d'écrire une chanson. Un, c'est quand lui-même écrit un texte au complet puis le soumet à quelqu'un.
Oui.
Il faut quand même avoir une bonne idée de la façon qu'une chanson s'écrit, dans le fond. Mais ça, c'est la liberté totale. Il y a l'autre qui est arrivé de faire assez souvent aussi. Quelqu'un lui donne une musique avec une mélodie et il doit écrire un texte là-dessus.
Oui.
Ça, c'est beaucoup plus difficile pour lui, et je le comprends, mais en même temps, pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Parce qu'une chanson, c'est de la musique.
Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
Mais
bon, c'est vrai. Brassens écrivait comme ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il écrivait comme ça. C'est-à-dire que quand il disait une phrase, pas par exemple, « Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps », mais c'est la façon, ce sont les pieds de la phrase dite
qui donne
à haute voix qui donnait le rythme à la musique.
D'ailleurs, je me souviens que Francis Cabrel avait déjà dit en entrevue que pour lui, la plupart du temps, la musique arrive en premier. Et il va dire n'importe quel mot, juste pour la consonance, souvent en anglais aussi, parce que ça sonne mieux. Et quand sa chanson est écrite, là, il va travailler le texte.
C'est ça.
Donc, pour moi, ça, c'était la meilleure. Ouais, mais bon, ouais, pour lui, c'est plus facile.
Et la troisième?
La troisième, c'est en collaboration.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il l'a fait aussi, travailler en collaboration pour écrire un texte. Je ne parle pas un qui écrit la musique et l'autre le texte. Mm-hmm. Une collaboration pour écrire un texte. Mm-hmm. Ça, d'après moi, c'est un peu plus compliqué. Par contre, des fois, ça peut être quand on bloque devant une phrase, l'autre apporte une autre idée.
Oui.
On ne sait plus qui a proposé quoi. Mais
est-ce qu'il s'est déjà vu refuser des textes, par exemple? Non? Est-ce qu'il
pas d'une façon aussi drastique, mais ce qu'il dit, c'est qu'il a déjà eu des commandes, il a déjà proposé des textes et il n'en a pas entendu parler par la suite.
On va prendre ça comme un refus. Alors, ça s'appelle, je vous le rappelle, en 67, Tout était beau, c'est signé Pierre Huet. Du groupe Beau Dommage, hein, oui, rappelons-le, même s'il n'a jamais été sur scène avec ses camarades. En avez-vous un petit extrait pour
nous?
Oui,
absolument.
Prenez votre temps, il nous reste un bon 2 minutes.
Bon, alors, ici, c'était déjà prêt, un extrait d'environ 1 minute.
D'accord.
Ah, ça parle du géant Beaupré.
Ah, parfait.
Mon père s'était donc retrouvé, pour ces raisons, gardien de nuit à l'Université de Montréal. Dans le cadre de sa tournée nocturne, il devait jeter un coup d'œil sur la dépouille du semi-légendaire Géant Beaupré. Un brin d'histoire pour les plus jeunes, le Géant Beaupré, comme son nom l'indique, est un Canadien français de 8 pieds 3. À son époque, on était géant en pied et pas en mètre. Légèrement défiguré après avoir reçu un coup de sabot de cheval en pleine face et qui gagnait sa vie en s'exhibant dans des foires. À sa mort précoce, ce qui est souvent le lot des personnes de grande taille, il avait carrément été éviscéré, empaillé, puis trempé dans le formol pour ensuite avoir une deuxième carrière dans les mêmes foires. Comble de l'ignominie, il avait été oublié dans un entrepôt quand le cirque ambulant qu'il utilisait, j'allais écrire employé, a fait faillite. Un jour, quelqu'un était tombé sur son encombrante dépouille dans un entrepôt abandonné et l'avait offerte à l'Université de Montréal qui, embêté et ne sachant trop qu'en faire, l'avait inscrite, attention aux mauvaises blagues, dans la visite guidée qu'on pouvait faire de ses locaux le dimanche après-midi. Par la suite, les autorités de l'université avaient fini par reléguer le pauvre géant dans un placard à balais fermé à clé sous l'escalier de l'édifice principal. Détail. Quoi qu'en dise le texte de ma chanson, ce n'était pas un squelette, mais bien une momie jaune cire, au nez cassé et avec une énorme cicatrice de haut en bas de la poitrine. Le peu qui lui restait de sa dignité était caché par un pagne. Je m'étais permis une licence poétique parce que le mot squelette sonne mieux que momie.
Ah oui, c'est
et
bon.
Et voilà pourquoi il dit dans la chanson « Le squelette du géant Beaupré ».
Ah,
c'est une momie, en fait.
Ah, en effet. Mais voyez-vous, voilà, c'est le genre de petites anecdotes hein, qu'on retrouve quasiment à chaque page de ce livre, ma foi, fort intéressant. Non seulement pour la chanson, mais pour l'époque,
absolument.
Évidemment. Hein, si je vous ai bien entendu.
Ah, absolument.
Daniel Lachance, en 67, « Tout était beau » de Pierre Huet. Merci beaucoup.
Bienvenue.
À bientôt, Daniel. Je lis toujours beaucoup, et pas seulement des bouquins, des revues aussi. Et l'autre jour, dans Télérama, qui est une excellente revue française, qui au départ est... le contenu est beaucoup consacré à la télévision, mais il y a aussi presque 50% de cette revue-là qui est consacrée à l'art en général, à la culture. Et il y a toujours des dossiers vraiment intéressants. Et là, je suis tombée sur un dossier qui s'appelle « 3 bonnes raisons de relire Moby Dick ». Et c'est signé Gilles Heuré. Puis je me suis dit, tiens, quelle bonne idée, soumettre l'idée de relire Moby Dick, surtout que là, il y a une nouvelle version, je vais tout vous dire grâce à cet article-là, qui nous dit que le chef-d'œuvre de Herman Melville vient d'être réédité chez Gallimard dans une nouvelle traduction. Ce qui est une très bonne excuse, nous dit ce monsieur Heuré, pour lâcher et replonger dans ce récit d'aventure maritime qui est, dit-il, plus métaphysique que classique. Premier chapitre, première raison, appelez-moi, call me Ismaël. On reste intrigué tout au long de ce livre magnifique par cette présentation malicieuse du narrateur, qu'Herman Melville, qui, faut-il le rappeler, est décédé en 1891, adresse à ses lecteurs, qui sont sommés en quelque sorte de participer au roman. Dans sa première traduction de Moby Dick en 1941, par Jean Giono, qui s'était fait un peu aider, nous dit M. Heuré, on pouvait lire « Je m'appelle Ismaël, mettons ». Amorce tout à fait recevable, si ce n'est que la suite fut un peu édulcorée par l'auteur de Regain. Armel Gern, une traduction de 54 rééditée par Phébus en 2005, lui, avait opté pour « Appelons-moi Ismaël » avec un H. Anecdote pour puristes, pas seulement. D'entrée de jeu, Ismaël est le conteur, celui qui participe à la folle expédition du baleinier, Pécode, commandé par le capitaine Achab. Ismaël est tout du long le témoin candide dont les yeux se dessillent peu à peu en découvrant ses compagnons et la personnalité d'Achab. Dans l'épilogue, après les deux terrifiants derniers chapitres sur la chasse, il dit « Le drame est achevé », façon de signifier au lecteur que l'aventure est terminée, mais que sa légende flottera encore longtemps. Ismaël et Melville sont attachés par un cordage narratif. Le premier parle pour le second, qui feint de le laisser en arrière-plan. De l'eau, de l'eau, de l'eau, oui, mais pas seulement, nous dit également l'auteur de ce papier. Toujours dangereuse et longue, parfois de plusieurs années, la pêche à la baleine avait déjà fait l'objet de récits avant le roman de Melville. Mais il s'agit d'autre chose ici. À l'aventure, celle du Pécode qui fend l'immensité des mers, s'agrège la vengeance métaphysique que poursuit Achab, le foudroyé, le taciturne, le capitaine à la jambe d'ivoire, qui met du temps à se montrer sur le pont, et qu'Ismaël voit pour la première fois un matin, ça c'est dans le chapitre 28. On eût dit un homme qu'on vient de détacher d'un bûcher dont les flammes ont méthodiquement ravagé tous les membres. Ça c'est directement extrait de Moby Dick. Et Moby Dick, le plus monstrueux cachalot qui ait jamais défoncé un canot, le cachalot à la tête blanche avec un front ridé et une mâchoire tordue. Et pour Achab, et là je cite toujours le livre, la cause non seulement de toutes ses souffrances physiques, mais aussi de toutes ses exaspérations intellectuelles et spirituelles. Face à cette force maléfique, ce démon séculaire qui dépasse la simple nature d'un cachalot, Achab lui-même sort de sa condition humaine, devient un monolithe de haine, encore un peu humain quand il soliloque comme un héros shakespearien, mais irrémédiablement aspiré par le désir de mort. Celle qu'il veut infliger au cachalot et à lui-même. Jack, Philippe, Thomas ou Thomas et quelques autres. Sur le gaillard arrière de ce livre, derrière de ce livre mythique, se tient Herman Melville et nombreux seront ceux qui en verront la silhouette. Si Moby Dick fut accueilli par des critiques mitigées, exception faite de Nathaniel Hawthorne, l'auteur de La lettre écarlate et l'ami qui séjournait parfois dans la maison de Melville à Arrowhead, près de Pittsfield, le livre ne cesse de souffler dans la littérature américaine, particulièrement à partir du XXe siècle. D.H. Lawrence, Albert Camus, Cesare Pavese, Jack London, Philip Roth, Thomas Pynchon, Richard Brottingham, Ernest Hemingway, pardon, je ne connais pas le précédent, Le Clésio aussi, Jean-Marie Le Clésio, Mario Vargas Llosa, William Faulkner et bien d'autres ont reçu les embruns de ce fol ouvrage, écrit ce monsieur Heuré. Et en levant les yeux vers l'espace géographique et littéraire des États-Unis, ils entendent ce cri de la vigie « Souffle là, souffle là !» Une bosse comme une colline blanche, c'est Moby Dick. Alors voilà, donc il y a déjà maintenant chez Gallimard une nouvelle réédition. J'espère qu'elle sera enregistrée par Vues et Voix ou par d'autres, mais en tout cas j'espère qu'elles vous parviendront jusqu'à vos oreilles quand ça arrivera. Tenez, je peux vous dire que moi je vous le dirai bien sûr à cette émission-là. Mais je suis allée au SQLA et j'ai trouvé d'autres titres autour du thème de la baleine. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, mon ami ? Parfait. Il y a par exemple Le cœur de la baleine bleue, ça c'est le troisième roman de Jacques Poulain. Le cœur de la baleine bleue, qui est à la fois une histoire de cœur et un voyage vers le pôle intérieur, selon la belle expression d'André Breton. C'est un livre qui nous apprend à se mieux connaître, nous dit-on, à sortir de la solitude et à aller vers les autres, ce qui favorise la rencontre de Charlie la baleine bleue, qui entraîne le héros au bout de lui-même et des choses. Il y a aussi un autre livre qui me semblait intéressant, c'est celui d'Anne Collet, COLLET. Ça s'appelle « Danse avec les baleines ». Cette femme est reconnue dans le monde entier comme une brillante biologiste. C'est une spécialiste des grands cétacés. Elle évoque ses voyages et ses missions dans ce livre-là. Elle nous fait partager ses émotions, ses émerveillements et surtout son incomparable connaissance du terrain, de l'Arctique à l'Antarctique, des Açores à la Terre de Feu et la plongée aux côtés des dauphins, des baleines et des cachalots. Et c'est apparemment une expérience inoubliable qu'elle nous fait vivre dans « Danse avec les baleines ». Michael Crummy, ça s'écrit C-R-U-2-M-E-Y, Ça s'appelle « Du ventre de la baleine ». C'est une baleine qui s'échoue à Paradis profond. C'est le nom d'un patelin. Et quand on lui ouvre le ventre, un homme d'une pâleur surnaturelle roule parmi ses entrailles fumantes. Alors c'est le premier élément fabuleux de ce récit qui multiplie les merveilles et qui distille, nous dit-on, une irrésistible magie. Nous sommes, nous, lecteurs, les premiers envoûtés. On parcourt tout le siècle qui précède la Première Guerre mondiale dans ce livre-là, « Du ventre de la baleine », qui est un portrait inattendu de l'arrière-pays terneuvien. Exposé aux rigueurs les plus extrêmes du climat et de la destinée, les gens qui habitent à Paradis profond survivent dans un univers où la frontière entre la réalité et le surnaturel ne réussit jamais à s'imposer. C'est une espèce de 100 ans de solitude, nous dit-on, au pays des icebergs. Je vous rappelle le titre, « Du ventre de la baleine », c'est de Michael Cromie. Puis bien sûr, pour les jeunes, hein, vous vous souvenez de « La grenouille et la baleine » de Viviane Julien. Nous sommes dans la splendide petite région de la côte nord québécoise avec Daphné, 12 ans, qu'on appelle aussi la petite grenouille, qui vit une relation privilégiée avec les plus grands et les plus intelligents mammifères du monde. Alors évidemment, tout va très bien au début, comme dans le meilleur des mondes, mais ça va se gâter. Et on se souvient qu'un film était né de cette histoire-là, réalisé par Jean-Claude Laure, produit par Roch Demers, un long-métrage qui avait quand même remporté une vingtaine de prix internationaux à ce moment-là. Donc, La grenouille et la baleine, ben, je pense que c'est à peu près tout. Ah, un autre petit dernier, tiens, avant que je vous en sorte d'autres livres à lire. À mort les baleines, ça c'est un peu plus sérieux, on n'est plus dans le roman. J'ai trouvé dans Babelio un avis de lecteur qui nous dit « Attention, ce livre n'est pas un plaidoyer pour la chasse à la baleine, comme le laisse penser le titre très vindicatif au contraire. » L'auteur nous fait découvrir le quotidien d'un petit village de Madère, Canical, qui vit presque entièrement de la chasse à la baleine. Et un jour, Manuel, fils, petit-fils, frère de baleinier, assiste à sa première chasse. Et même s'il refuse de l'admettre, l'événement l'a dérangé. Et ce lecteur qui dit qu'il a vraiment beaucoup aimé ce livre parce que, dit-il, on devrait le faire lire à tous ceux qui ne reconnaissent pas l'importance de tout être vivant. Ça s'appelle « À mort les baleines », c'est de Nina Roprich, je vous l'appelle, R-A-U-P-R-I-C-H. La semaine prochaine, en fait, pour les deux prochaines semaines, vacances oblige. Oui, je vais faire un petit break, mes amis. Alors, la semaine prochaine, le 17 mai, reprise de l'émission avec Jean-François Caron, c'est vraiment un de mes grands coups de cœur de l'année. Ce poète camionneur, une écriture époustouflante. Alors voilà, j'ai décidé de vous donner ou de vous redonner le goût de vous plonger dans la littérature de Monsieur Jean-François Caron. Puis la semaine d'après, j'avais envie de vous faire plaisir avec cette femme que vous voudriez tous avoir comme amie, c'est France Castel. Alors on réécoutera l'émission au cours de laquelle France Castel était venue en studio. France, pour son rire, pour son âme, pour son humanité et pour sa lucidité. Quelques titres en rafale. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Ça aussi, ça peut être un vieux classique dans lequel on peut avoir envie de se replonger. Ça a été enregistré, réenregistré. Alors bon, tout le monde connaît plus ou moins cette histoire, hein, ce soi-disant fantôme qui erre dans les coulisses de l'Opéra Garnier à Paris et qui provoque accidents et disparitions lorsqu'on ne satisfait pas ses demandes. Gaston Leroux qui prend le parti de narrer cet épisode de l'Opéra Garnier sous forme d'une enquête documentée avec preuve à la pluie, note en bas de page pour en authentifier la véracité. Bref, le genre de truc que les lecteurs n'aiment pas forcément lire parce que lorsqu'il y a des notes et tout ça, c'est pas toujours évident pour nous lecteurs. Mais si vous avez envie de vous replonger dans l'histoire de Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra, ne vous gênez pas, c'est nouvellement disponible en audio adapté. Cinéma Royal de Patrice Lessard. L'ancien Cinéma Royal de Louisville abrite aujourd'hui un centre commercial Decati et le chic hôtel Windsor a été réduit à une misérable taverne. Jeff habite au-dessus de l'un et travaille à servir les ivrognes dans l'autre. Prisonnier d'un quotidien sans relief, il attend un miracle qui fait son entrée au Windsor par un beau soir d'hiver. Una bella española, prénommée Luz. la femme de l'avocat de la pègre locale et amatrice de grands vins qui s'installe au bar. Alors comme dans les films les meilleurs ou les pires, Jeff en tombe instantanément amoureux et comme dans les films aussi, elle succombe à ses avances. D'aucuns diraient que tout cela est trop beau pour être vrai. Ben écoutez, allez donc vérifier. Cinéma Royal de Patrick Lessard. Mécanique du chaos de Daniel Rondeau. Écoutez, ouf, une histoire qui commence avec une adolescente somalienne, Habiba, rescapée d'un naufrage sur les côtes maltaises. Elle sera avec Grimaud, archéologue français résident en Tunisie, et Harry, jeune orphelin d'une banlieue parisienne, l'un des trois fils rouges de cette fresque qui nous conduit en Somalie, en Éthiopie, en Turquie, en Irak, en Libye, en Algérie, en Égypte et surtout en France. À Paris, dans le secret des services, Bruno tente d'infiltrer les réseaux terroristes. En Libye, on essaie d'infiltrer un trafic d'œuvres d'art. Bref, une histoire très riche, mécanique du chaos de Daniel Rondeau pour les gens qui ont peur de peut-être s'ennuyer un peu. Mais avec ce bouquin-là, j'aime mieux vous dire qu'il y a des rebondissements. Non, même, c'est même pas à toutes les pages, c'est à tous les paragraphes. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition de l'émission des livres plein les oreilles, animée pour vous, comme chaque semaine, par Clotilde Seille. Merci beaucoup d'avoir été présent et puis surtout merci à mes invités du jour. Je pense à Huguette Roussel en tout début d'émission, à Daniel Lachance en seconde partie qui nous a présenté le livre de Monsieur Pierre Huet. Et puis merci aussi à Michel Ouimette, venu pour la deuxième fois à cette émission des livres plein les oreilles pour nous présenter L'heure mauve. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, mais encore une fois, je serai là les 2 prochaines semaines avec des émissions en reprise. D'ici là, portez-vous bien, bonne lecture et à bientôt.